Donc on continue ce matin notre étude de Daniel et on est en Daniel chapitre 7. Alors jusqu'à présent, vous voyez ici sur la fresque, il est dit toute cette partie et la partie historique dont les 6 premiers chapitres étaient historiques et maintenant on entre dans la partie prophétique. Donc deuxième partie de Daniel. Donc, Daniel ici va expliquer les visions qu'il a reçues de Dieu sur sa couche. Il va expliquer, en fait, le futur. Dieu va lui donner de voir à l'avance ce qui va se passer. On va lire Daniel 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur son côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et trois des petites cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont les quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et les ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs, le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Alors, je vous avouerai que quand j'ai lu ce chapitre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Alors, je sais ce que je peux vous dire au niveau historique, parce que c'est plein d'histoires, en fait. Hein, c'est prophétique. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire je veux dire, qui va nourrir, quoi. Hein. C'est un chapitre, je trouve, un petit peu difficile. Hein. Mais en cherchant à droite, à gauche, finalement, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui sont certaines sur lesquelles nous pouvons toujours compter. Des choses qui sont certaines dans un monde qui est vraiment incertain. Et on voit dans ce chapitre des choses certaines. C'est difficile de se fier à notre monde aujourd'hui. Si vous faites confiance à un homme politique, un jour ou l'autre, il fait quelque chose qui vous déçoit et puis finalement, vous êtes déçu d'avoir voté pour lui. Si vous faites confiance à l'économie, à un moment, vous pouvez avoir un retour de manivelle et puis vous perdez tout, comme on peut le voir en ce moment. Et puis aussi avec les nouvelles valeurs que les médias font passer, on voit que finalement, on peut même plus faire confiance à son conjoint. Pourquoi ? Parce que quand les gens vont à l'église, les couples vont à l'église pour se dire oui, le oui qu'ils disent à l'église catholique ou même parfois chez les évangéliques et à la mairie, ce oui, ça veut dire on verra. Ce n'est pas un oui qui veut dire oui, c'est un oui qui veut dire on verra. On verra bien, c'est oui aujourd'hui et on verra demain. Pourquoi on est si content d'avoir un précieux CDI ? Parce que on craint d'être au chômage dans un monde qui est incertain. Il faut avoir un CDI, au moins on a l'impression d'avoir un peu de sécurité et même là, on peut quand même se faire licencier. On a besoin de sécurité, on a besoin d'assurance et on en trouve de moins en moins dans le monde. Mais Dieu, dans la parole de Dieu, nous donne des certitudes. Lui, il dit des choses et il le fait. Il va jusqu'au bout de ce qu'il dit et ça, c'est précieux. On verra donc trois certitudes dans un monde qui est incertain. Mais avant ça, on va d'abord voir les prophéties et donc toute cette partie qui est plus finalement intellectuelle et historique. Daniel a donc une vision sur sa couche. On va relire les versets 2 et 3. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer et quatre grands animaux sortirent de la mer différents les uns des autres. » La mer, dans la Bible, c'est une représentation de l'humanité dans son ensemble, représentation des nations en fait. Et on voit Daniel, il dit qu'il voit de cette immense étendue quatre grands animaux qui sortent. Alors il parle de quatre vents. C'est tentant, au départ je me suis dit, est-ce que ces quatre vents finalement, est-ce que c'est pas le souffle de Dieu là, qui finalement conduit toute chose? Mais un petit peu plus loin, en 8:8, Daniel 8 et verset 8, il dit « Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. » Et là, en fait, les quatre vents des cieux, il semble que ça indique plutôt les points cardinaux. Mais c'est pour dire que c'est un peu partout de la terre. Les quatre animaux qui sortent sont un lion, un ours, on les a là, un lion, un ours, un léopard et un monstre, une bête incroyable. Et Daniel n'a pas une nouvelle vision, mais il lui donnait de compléter la vision passée. Il avait eu la vision de la grande statue et cette vision ici vient compléter à chaque fois la vision qu'il avait déjà eue au-dessus avec la grande statue. Daniel avait expliqué le songe de Nebuchadnezzar et donc c'était à chaque fois quatre empires, on l'a ici, empire babylonien, empire des Mèdes et des Perses, empire grec et puis empire romain. Et on retrouve donc ces quatre empires ici représentés par les animaux. Donc, verset 4, « Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. » Donc, on retrouve l'empire de Babylone, avec Nebuchadnezzar, donc c'est lui qui est la tête d'or, un roi très puissant, il est comme un lion, il dévore, il conquiert, et les ailes, c'est son ambition, c'est aussi sa rapidité pour aller manger un peu tous les peuples qui sont autour, mais soudain le lion se voit les ailes arrachées, et là on peut voir eh bien, le moment de la chute du roi, où il s'est enflé d'orgueil, et Dieu lui arrache les ailes, et soudain, eh bien, il se retrouve comme un fou, en train de manger de l'herbe, puisque la royauté lui est ôtée par les grands qui étaient au royaume. Humiliation. Et Dieu permet cette épreuve à Nebuchadnezzar pour lui rendre la raison, parce qu'il avait perdu la raison. Nebuchadnezzar ne se comportait plus comme un homme, mais à un moment, finalement, il s'est cru pour Dieu. Voilà, c'est moi qui ai fait tout ça. Alors, eh bien, Dieu va le ramener à la raison en lui montrant que l'homme ne peut rien sans lui. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Dieu qui peut ramener la raison et aider l'homme à reprendre sa seule place légitime dans l'ordre de la création. L'homme est une créature et il doit se comporter comme une créature devant son créateur et reconnaître Dieu comme étant au-dessus et qui règne. Donc Dieu a donné un cœur d'homme à Nebuchadnezzar. Et ça s'est produit comment? Quand Nebuchadnezzar a levé les yeux vers le ciel, là, il est dit, la raison lui revint. Ah oui, Dieu est au ciel, c'est de lui que viennent toutes choses. Et moi, bien que je suis ou j'étais roi de Babylone, je suis qu'un un petit homme et je dois dépendre du Créateur. Verset 5. Et voici, un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc, deuxième empire, ici c'est la poitrine et les bras d'argent et ça représente l'empire des Mèdes et des Perses au travers de cet ours. L'ours se tient sur un côté et il semble qu'il est plus pesant d'un côté que de l'autre. Pourquoi? Parce que l'empire perse était plus puissant que l'empire mède. Donc il y avait un côté qui était beaucoup plus fort. Alors c'est intéressant de mettre en parallèle parce que là on est donc dans le chapitre 7. Mais dans le chapitre 8, on voit que de nouveau, il y a un parallèle à faire. Donc, on va aller dans le chapitre 8 et on va regarder le parallèle à faire. Regardez 8, versets 1 à 4. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Je levai les yeux, je regardai, voici un bélier se tenant devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et devint puissant. Donc, on a ce bélier qui est ici. Et on retrouve l'idée, une corne qui est plus haute. Hein. Donc voilà, l'empire des Perses hein, qui domine, qui est au-dessus de l'empire des Mèdes. bien qu'ils sont liés ensemble, donc la prépondérance des Perses sur les Mèdes, et le bélier frappe à l'occident, au septentrion, au midi. On peut retrouver l'idée des cornes dans sa gueule, c'est qu'il frappe à plusieurs endroits, à trois endroits, et il conquiert donc dans ces trois directions. Donc c'est un empire très puissant, comme dit la première vision de Daniel. Il fut dit à l'ours, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Et les Mèdes et les Perses sont allés conquérir beaucoup de peuples. La Lydie, la Babylonie, l'Égypte. Et puis vient la vision de l'animal suivant. On peut revenir dans Daniel 7, verset 6. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Et là, donc ici avec le léopard, on est en présence d'Alexandre le Grand. Le léopard n'est pas forcément l'animal le plus rapide, mais on voit il a quatre ailes sur le dos. Le lion en avait deux. Lui, il en a quatre, signe d'une rapidité. Et quand vous lisez l'histoire d'Alexandre le Grand, c'est phénoménal comment il est allé conquérir. Et puis lui, il est allé plus loin que tous les autres. Parti de Macédoine, il va parcourir des milliers de kilomètres. Babylone, après il pousse vers l'Asie. Aujourd'hui, je vous cite les pays, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, jusqu'à se retrouver aux portes de l'Inde, où là, finalement, il va rebrousser chemin par la côte et revenir vers Babylone. Et Alexandre est reconnu comme l'un des plus grands stratèges de toute l'histoire. Les grands autres conquérants se référaient à lui, Genghis Khan ou d'autres encore. Et c'est incroyable quand même qu'il ait pu aller attaquer tant de peuples et prendre tant de terres sans mourir au combat. Pourquoi ? Parce qu'il était avec ses soldats, il n'envoyait pas son armée et puis il venait décrocher la victoire. Il était toujours avec ses soldats au front et il est allé comme ça partout. Et on voit quand même la main de Dieu là, qui a préservé cet homme dans toutes ses conquêtes et qui accomplissait parfaitement la parole de Dieu. Et Alexandre, eh bien, en partant faire toutes ses conquêtes, a laissé son royaume derrière lui, avec des généraux. Et ça a commencé un peu à se fragiliser, parce que le roi était parti pendant bien longtemps, pendant qu'il était en train de planter toutes ses Alexandries. Il y a plein de villes qu'il appelait à chaque fois Alexandrie. Et à son retour, il doit regagner la confiance des Macédoniens. Pourquoi ? Parce qu'il commençait à porter sa confiance dans les Asiatiques qu'il avait pris dans son armée. Et alors les Macédoniens le voyaient d'un mauvais œil, n'étaient pas très contents de ça. Et alors, voilà, il devait regagner la confiance des Macédoniens. Mais Alexandre le Grand était incroyable, avec un discours, une verve, une capacité à ramener un peu dans son giron. Il a apaisé et il a réussi à permettre que ça aille. Et puis, peu de temps plus tard, il meurt. Il meurt, peut-être empoisonné. Et à ce moment-là, eh bien, ça va être la dispute dans le royaume, pour se diviser le royaume. Et de là, on voit les quatre têtes, donc au léopard. Quatre têtes. Et quand on prend la vision, donc dans Daniel 8, on voit que ça se complète. Regardez Daniel 8. 5 à 8. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Là, vous voyez la rapidité d'Alexandre le Grand avec ses armées. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Elle est représentée ici en petit. Grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa, mort d'Alexandre le Grand. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. Donc, division du royaume en quatre parties. Alexandre l'invincible, hein, qui foule aux pieds les Mèdes et les Perses, mais finalement, il finit par se briser la corne, il en meurt. Et on voit une chose qui est saisissante dans la parole de Dieu, c'est la précision des prophéties. Dieu a dit toutes choses à l'avance, et voilà, il a expliqué l'histoire, voilà comment ça va se passer. Et il nous donne plusieurs illustrations pour que ce soit sans appel, qu'on puisse pas dire, ah ben non, c'est pas ça, c'est forcément ça. Mais il y a pour finir un quatrième animal qui en fait un monstre. Regardez Daniel 7:7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Donc, quatrième animal à mettre en parallèle cette fois avec les jambes, avec donc la fin. Et donc, ça représente l'Empire romain. Si les autres empires étaient très forts, celui-là est extraordinairement fort. Et on peut dire qu'il y a comme un trou dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que l'Empire romain, eh bien, a eu son apogée dans les premiers siècles de l'histoire. Hein. Mais après, eh bien, l'Empire romain a commencé à disparaître. Hein. Ça se désagrège. Alors, il y a plein d'hommes qui essayent de reconstituer, hein, avec Napoléon, avec Hitler. Hein. Mais l'Empire romain est resté comme ça, finalement pas reconstitué, jusqu'à ce que création de l'Europe. Et finalement, là, on a une reconstitution de l'Empire romain, en quelque sorte. On n'a pas vraiment tout le bassin méditerranéen, mais quand même pas mal de pays, et même au-delà. Mais une reconstitution qui n'est pas par la guerre, là, qui est plutôt faite par des alliances. Hein. Et c'est ce que nous avions vu ensemble dans Daniel, versets 42-43, chapitre 2, 42-43. Et comme les doigts des pieds de la statue étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc là, on a l'idée de l'Europe qui est vraiment fragile. Et on le lit, on peut trouver plein de documents où ils disent que vraiment on marche sur des œufs avec l'Europe et on n'arrive jamais à une unité parfaite. Et donc on a comme une reconstitution de l'Empire romain. Alors que signifient les 10 cornes? Il y a eu plein de spéculations qui sont allées bon train sur les 10 cornes. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui sont ces 10 cornes, parce qu'on est l'Europe des 27, hein, il me semble. Donc voilà, on est bien plus que ça. Mais la parole de Dieu, elle est certaine. Dieu dit 10 cornes, ça veut dire Dieu parle de 10 rois, on l'a lu dans Daniel. Donc 10 dirigeants, c'est sûr, à un moment, eh bien, il y a peut-être 10 dirigeants qui vont ressortir des autres, hein. Quelque chose qui va se former. Mais il y a une corne qui apparaît. Daniel 7, verset 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Et là, cette dernière bête intrigue Daniel, elle est différente, elle est bien plus forte, bien plus puissante que les autres. Et qu'est-ce qu'on apprend sur cette petite corne qui est en fait la bête? Donc au départ, elle est gouvernée par 10 rois, 10 dirigeants, et soudain 3 sont arrachés et c'est remplacé donc par cette petite corne. On voit que cette petite corne, Elle est arrogante. On voit qu'elle a une plus grande apparence que les autres. Donc, beaucoup plus de charisme, beaucoup plus prestance, voilà, quelqu'un qui, vraiment, qui sait séduire. On apprend aussi que cette corne fait la guerre aux saints. Et on voit ça verset 21. Donc 7, verset 21. « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Quand on parle des saints dans l'Ancien Testament, on n'est pas en train de parler de l'Église de Jésus-Christ, on est en train de parler des Juifs. Pourquoi ? Parce que, je l'ai lu, voilà. L'Église n'a pas été révélée à Daniel. Daniel ne voit pas l'Église. Donc, il est en train de parler des Juifs. Les saints, c'est les Juifs. Et donc, cette corne va faire la guerre aux Juifs. Elle va l'emporter sur eux, verset 22, jusqu'à ce que l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Donc, il n'y a que l'intervention de Dieu qui peut faire que cette corne ne domine plus les Juifs et est obligée de lâcher prise. Que l'intervention de Dieu. Et puis, on apprend que ce dernier roi est un blasphémateur. Regardez Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui donnera la domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Donc c'est un blasphémateur, il déteste Dieu, il le maudit. Alors, dans le chapitre 8, nous allons voir la prochaine fois qu'il y a un homme historique qui apparaît, c'est Antiochus Épiphane. Donc, il était un roi qui finalement était un type de l'Antéchrist. Donc, ce qu'il a fait et ce qu'il est se recoupe avec l'Antéchrist. Et on peut prendre le passage de 8, versets 23 à 25, parce qu'on peut y voir aussi l'Antéchrist ici. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. C'est intéressant. Non par sa propre force. D'où lui vient cette force? Elle lui vient du diable, de l'au-delà. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa postérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui finit par le briser. Donc quand on voit tous ces textes, on arrive à une description vraiment de l'Antéchrist. L'Antéchrist ou l'Antichrist, en fait, dans la Bible, c'est l'Antéchrist. C'est celui qui vient avant Jésus-Christ. Mais on a tendance à dire l'Antichrist parce qu'il est contre Christ. C'est une vérité, mais c'est pas tiré des Écritures directement le mot. Dans l'Apocalypse, on voit qu'il est appelé la bête. On le décrit comme arrogant, on le décrit comme blasphémateur. Et c'est bien l'Antéchrist qui va détruire les Juifs, qui va essayer de les anéantir durant la période de la tribulation, c'est-à-dire dans l'Apocalypse. Donc ça se recoupe parfaitement. Et Daniel reçoit l'explication des saints livrés entre ses mains. Donc on a lu ce verset en 7:25. Les saints seront livrés entre ses mains un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors on pense qu'il s'agit de 3 ans et demi. Pourquoi 3 ans et demi? Parce qu'à la fin du livre de Daniel, j'ai vu que c'est ici, à la fin du livre de Daniel, il est parlé d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, et il est parlé de 1260 jours. 1260 jours, c'est 3 ans et demi à quelques jours près. Donc, on pense que un temps, des temps et la moitié d'un temps, en fait, un temps, c'est 1 an, des temps, c'est 2 ans, et la moitié d'un temps, c'est 6 mois. 3 ans et demi. Ça signifie que l'Antéchrist va s'acharner sur le peuple des saints pendant 3 ans et demi. Et alors, ce que l'on peut recouper, on le verra ensemble dans les prochaines études, c'est que la période de la tribulation, c'est-à-dire la période qui est décrite dans l'Apocalypse où l'Antéchrist va régner, eh bien, va durer 7 ans. 3 ans et demi où il va y avoir un pacte fait avec les Juifs, où là, ça sera la paix, tout va bien se passer. En tout cas, il le prétendra. Et puis, au milieu des 3 ans et demi, il va rompre le pacte et il va se tourner contre les Juifs pour les exterminer. Et là, on rentre dans la deuxième partie de la tribulation. Daniel 7, 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. À la fin, eh bien, Dieu va prendre l'Antéchrist et le détruire. Alors, qui sera l'Antéchrist? Ou j'ai envie de dire, mais qui est l'Antéchrist aujourd'hui? Parce que vu comment nous avançons, on se dit, mais dans quelle grande école faisant sciences politiques ou quelque chose comme ça, il est où est-il? Ou quel âge a-t-il? Dieu seul le sait, puisque c'est lui qui a déterminé la fin. Et quand on pense que des millions d'hommes vont suivre ce dirigeant charismatique, séduit par sa parole, par sa capacité à charrier les foules, et ils seront trompés, piégés par l'homme impie. Et pour revenir à ce que je vous disais en introduction, le monde aujourd'hui est incertain. On peut dire l'avenir, il est sombre. Mais il y a des choses qui sont sûres et certaines. Et quelles sont-elles? La première chose qui est sûre, c'est que les royaumes de ce monde passent les uns après les autres. On le voit dans le livre de Daniel. Et donc, comme ça passe, que tous les royaumes passent, que tous les dirigeants passent, il ne faut pas se confier dans l'homme. Daniel l'a enseigné, Dieu l'a enseigné à Daniel, et on a vu une bonne partie de son accomplissement, les puissances où l'autorité des hommes passe. Et l'homme passe aussi, il passe comme une herbe qui sèche au soleil, il disparaît. Les rois tombent les uns après les autres, bien qu'ils soient tous plus forts les uns que les autres. Alors on est libre d'aller voter, et on va voter. On va voter. C'est bien de vouloir peser dans la balance, hein. Mais qu'on le sache, les chrétiens vont pas changer la donne. Ils vont pas changer le monde par leur vote vers un monde meilleur, un monde plus juste, un monde plus paisible, altruiste. On sait le dernier dirigeant de ce monde sera le plus méchant de tous. À la fin, ça sera le plus méchant. Et la seule chose qui permettra un changement dans notre monde, c'est l'intervention de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et on peut être certain que tous les royaumes de la terre passeront. Ils passeront parce qu'on ne peut pas se fier aux hommes, on ne peut se fier qu'à Dieu seul. La Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie, qui place sa confiance en l'homme, qui prend la chair pour appui. » Et ça c'est une leçon que nous pouvons tirer de ce chapitre. L'homme, quel qu'il soit, n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Un jour ou l'autre, il se trompe. Et si on s'est trop appuyé sur lui, eh ben, on est trompé avec lui. Ou bien il nous trahit. Un jour ou l'autre, voilà, ça part. Et prendre la chair pour appui, c'est finir par se mettre dans l'embarras. Daniel est resté à la cour des rois de Babylone pendant des décennies. Et il a vu les rois se succéder les uns après les autres. Mais il n'a pas placé 100% de sa confiance dans les rois qu'il avait. Regardez Nebuchadnezzar. Il a une première fois reconnu que le Dieu est le Dieu des cieux, l'Éternel. Quand Daniel lui a expliqué le songe, il a dit oh, « mais oui, vraiment, l'Éternel, c'est le vrai Dieu ». Mais Daniel n'a pas pour autant placé sa confiance en Nebuchadnezzar. Et il avait bien raison parce que finalement, après, Nebuchadnezzar a dû vivre encore d'autres choses pour qu'il reconnaisse vraiment l'Éternel comme le vrai Dieu. Et Daniel s'est bien porté, s'en est bien porté pendant toute sa vie, de ne pas placer sa confiance dans les hommes. Et il y a un danger à trop se confier dans les hommes, c'est qu'on peut se retrouver à un moment obligé de détourner son cœur de l'Éternel. C'est ce que dit le verset. Et Dieu veut pas qu'on détourne notre cœur de l'Éternel. Donc il faut pas se confier 100% dans les hommes. La Bible dit aussi, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ça, c'est le pendant. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Celui qui oublie l'Éternel et qui met l'homme en premier s'en trouve mal. Mais celui qui place l'Éternel en premier et qui met l'homme en second s'en trouve bien. Il est heureux, il vit en paix, il est béni. Pourquoi ? Parce que l'Éternel est fiable, il est sûr, il est constant. Vous vous appuyez sur l'homme et le roseau casse et vous reste dans la main. Vous appuyez sur Christ, le rocher, et lui, il ne bouge pas. Il est sûr, vraiment, et vous êtes en sécurité. Donc, il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que les hommes, les royaumes vont passer les uns après les autres. La deuxième chose dont on peut être sûr, c'est que le mal sera détruit. Et ça, c'est vraiment une vérité qui est réconfortante. Le mal va être détruit. Dans un monde où on voit le mal qui progresse sans cesse, on voit l'amour qui se refroidit entre les hommes, chacun est devant son ordinateur, même les couples se regardent même plus, il y en a une avec son ordinateur, l'autre de l'autre côté avec son ordinateur, ils sont en train de jouer avec des personnes à l'autre bout du monde. L'amour se refroidit. La violence augmente, ne cesse d'augmenter. Les incivilités sont monnaie courante. Plus de respect pour les générations passées et les jeunes générations sont les rois. Mais il est rassurant de savoir qu'un jour le mal sera détruit. Regardez Daniel 7, 9 à 11. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Et on voit dans ce passage que le mal ne reste jamais impuni. Dieu est juste et il ne peut pas ne pas punir le mal. C'est dans sa nature même de juger le mal. Et il semble, c'est certain, que certaines personnes passent entre les mailles de la justice. On se dit, mais comme Asaph, dans le psaume 73, mais ils ont de l'embonpoint, les méchants, tout va bien. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'à la fin, Dieu punit, Dieu châtie le mal. Le mal est détruit. Et personne ne peut échapper à Dieu. Il est dit dans ce passage, ses vêtements étaient blancs comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. On peut peut-être voir le symbole de l'éternité ici, mais aussi de la pureté, de la sainteté. Dieu est saint, il est blanc comme la neige, plus que la neige. Dieu est sans péché. Est-ce qu'on peut imaginer Dieu sans péché, nous qui sommes pécheurs. Imaginez-vous être dans la présence du Dieu qui est saint. Dieu ne peut pas accepter le péché. Il ne peut pas tolérer en sa présence le péché. Et nous, on est pétris de péché, de mauvaises habitudes, parfois de pensées qui nous passent par l'esprit, de choses mauvaises, d'actes, de paroles répréhensibles, de paroles que nous ne devrions pas dire. La seule issue, c'est venir se cacher en Jésus-Christ. Ça, c'est la seule issue pour le pécheur. Jésus est venu mourir pour nous. Et si on vient se cacher en Jésus-Christ, alors ce Dieu qui est pur, qui est saint, peut nous être favorable. Parce qu'on est, protégé en Jésus-Christ. On est caché dans son sacrifice. On est protégé par son sang qu'il a versé pour nos péchés. C'est le seul moyen d'être protégé. Sinon, eh bien, nous sommes des pécheurs en présence d'un Dieu saint. Daniel dit, « Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait, sortait de devant lui. » Le feu, c'est le symbole de la purification. Les enfants de Dieu vont passer au travers du feu pour être purifiés. Mais c'est aussi le symbole du jugement. Dans la parole de Dieu, c'est le jugement. Et on n'aime pas à penser au feu éternel. La Bible parle du feu éternel. Mais on peut pas enlever un passage de la Bible et puis prendre tous les passages qui nous plaisent bien sur la personne de Dieu. La Bible parle aussi du feu. Elle parle aussi du jugement. Et Dieu juge par le feu. Dieu condamne le pécheur qui n'est pas repentant. Il frappe de sa colère le méchant, en fait. Il frappe le mal. Il frappe celui qui est pécheur et qui ne se repent pas. Et Dieu ne peut pas faire autrement. Il faut que le mal soit détruit. Et soit nous sommes cachés en Jésus-Christ, et à ce moment-là, eh bien, le mal a été frappé. Notre péché a été frappé sur Jésus-Christ. Et on est protégé en Jésus-Christ. Soit nous sommes en dehors de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu viendra juger le mal, eh bien, il nous jugera avec. Parce que le mal est en nous. Le péché est en nous. Il faut que le mal soit détruit. C'est pour cela qu'il est important de se confier en lui, de croire en lui, de saisir Jésus-Christ en disant « Mais je crois en toi. Oui, je veux croire. Oui, je puis croire. Seigneur, que tu es mort pour moi. Sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. » C'est le seul moyen d'échapper au jugement du mal. Regardez verset 10. Il est dit « Les juges s'assirent et des livres furent ouverts. » Qu'est-ce que ces livres ? Si on prend le livre de l'Apocalypse, on ne va pas le lire, mais vous pourrez lire la fin de l'Apocalypse. En fait, ces livres, c'est les livres qui contiennent les œuvres des hommes. Toutes les œuvres. Toutes les œuvres. Les petits péchés de rien et les choses énormes. Tout est inscrit dans des livres. C'est la mémoire de Dieu. Et tout cela va être ouvert et Dieu va regarder. Et chacun sera jugé selon ses œuvres, selon le mal qu'il a commis. Et Dieu détruira le mal. Et si le pécheur est encore attaché à son mal, à son péché, alors il sera détruit avec. S'il a été caché en Jésus-Christ, alors il ne subira pas ce jugement parce que Jésus est mort pour nos péchés. On lit au verset 11 que l'animal terrible, cette bête, l'antéchrist, fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Et l'antéchrist, finalement, va être jeté dans le feu. C'est le feu du jugement, parce que le mal est toujours jugé. Un jour, le mal sera réellement détruit. Jésus a voulu rassurer son peuple quand il était parmi eux. Il était donc sur le bord du lac de Galilée et il a donné le sermon sur la montagne. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le sermon sur la montagne ? Il a dit une parole, je ne vous lis pas tout le sermon, mais il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Rassasiés, c'est-à-dire que Dieu va vraiment faire ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on se dit, mais injustice et méchanceté, et voilà. Mais Dieu, un jour, va juger. Et là, ça y est, il va y avoir la justice. Et les hommes qui ont soif de justice seront rassasiés. Une troisième chose, et dernière chose sûre, dans un monde incertain, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus est sûr solide, véritable. Regardez Daniel 7, 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Celui qui s'avance est semblable à un fils de l'homme, et c'est Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est appelé le fils de l'homme, parce qu'il est Dieu qui est descendu, qui s'est incarné dans une chair comme la nôtre, une chair humaine. Et la vision de Daniel, finalement, c'est son intronisation. C'est Christ accédant au trône. Jésus reçoit le règne, la gloire, la domination sur tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes. Et pour reprendre ce verset de tout à l'heure, « Béni soit l'homme qui se confie en Dieu incarné, en Jésus-Christ. » Les règnes et les dominations imparfaites des hommes vont passer, mais la domination et le règne de Jésus-Christ, lui, va durer éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. En faisant cette étude, j'ai lu certaines choses sur Alexandre le Grand. Il y a aussi un film qui a été fait sur Alexandre le Grand. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est bon, tout n'est pas forcément excellent à voir, mais il y a des. C'est quand même saisissant de voir l'histoire, et de voir comment, eh bien, ils ont reproduit cette conquête d'Alexandre le Grand. Et je me disais, Alexandre le Grand devait quand même avoir une personnalité attachante. On le sait, il était colérique, hein, parfois il pouvait éclater dans des colères terribles, mais aussi il savait être plein de bonté, il savait s'attacher les hommes autour de lui, c'était un homme qui inspirait confiance. Sinon, ces hommes ne l'auraient pas suivi au bout du monde. Il inspirait confiance. Ils sont morts par milliers à traverser des régions inconnues, inhabitables. Ils étaient prêts à tout pour être à ses côtés. Et quand il est revenu à Babylone, après tout ce périple, où plusieurs milliers, j'ai lu un chiffre, 6 000 hommes, à un moment dans un passage, sont morts, des milliers sont morts, il avait quand même des généraux qui étaient toujours à ses côtés, qui étaient fidèles. Et quand il est arrivé au bout du monde, là, enfin aux portes de l'Inde, il avait une flotte de navires, il leur a donné l'ordre de retourner, et lui, il s'est dit, je vais passer le long de la côte, c'était le chemin le plus difficile. Et on va essayer de vous mettre des vivres tout le long de la côte, et vous pourrez venir prendre ces vivres, vous nourrir, et on avancera ensemble, et on se rejoint à Babylone. Et donc lui, Alexandre part avec ses troupes, extrêmement difficile pour aller déposer les vivres, etc. Mais jamais ils arrivent à rencontrer les navires. Et finalement, ils arrivent à Babylone et pas de nouvelles des navires. Et Alexandre le Grand se dit, mais ils sont tous morts. J'ai perdu la flotte. Et le temps passe. Et finalement, le général qui avait en charge la flotte arrive avec ses hommes. Ils ont réussi à rentrer dans un port et puis à les rejoindre. Et là, c'est les retrouvailles, c'est la joie, ils sont contents, ils pensaient qu'il avait perdu son général. Et en fait, le général s'était battu comme pas possible pour réussir à parvenir là où Alexandre le Grand lui avait demandé d'aller. Pourquoi ? Parce que ils n'avaient pas de vivres, donc ils ont vécu la faim, la soif, les maladies. Les hommes voulaient déserter, abandonner les navires. Donc, ils essayaient de ne pas aller près des côtes pour éviter que tout le monde s'enfuit. Et finalement, eh bien, ils sont arrivés à bon port. Hein. Et finalement, ils sont arrivés auprès d'Alexandre. Mais à 32 ans, l'homme visionnaire, l'homme de conquête, l'homme de confiance, a une forte fièvre. Et au bout de quelques jours, il n'arrive plus à parler. il peut juste bouger la tête, bouger les yeux, et puis le lendemain, il meurt. Imaginez ces hommes qui avaient donné leur vie pour Alexandre. Alexandre était comme un dieu pour eux, hein, comme un dieu, avec un charisme exceptionnel. Le chef avait disparu. Le chef n'était plus là. Imaginez le vide pour ses plus fidèles soldats qu'il avait accompagnés dans ses conquêtes. Jésus, lui, n'a pas disparu. Lui, il est toujours vivant. Il est sorti du tombeau et en partant, il a dit à ses disciples qu'il reviendrait. Il reviendrait. Et notre maître, celui qui inspire nos vies, il est toujours vivant. Et son règne n'aura jamais de fin. Parce qu'il n'est pas un homme, il n'est pas un grand visionnaire, il n'est pas un grand chef militaire, il n'est pas même un grand prophète, bien qu'il soit un prophète, mais il est Dieu. Il est Dieu fait homme. C'est pour cela que son règne n'aura jamais de fin. C'est un règne qui est éternel. Pour l'instant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui seront soumises. Nous ne le voyons pas et lui sont soumises. Mais bientôt, il reviendra et il accomplira à la lettre tout ce qu'il a dit dans le livre de Daniel. À ce moment-là, la pierre va se détacher de la montagne et va venir frapper toute cette statue qui représente les royaumes de la terre. Et tous les royaumes de la terre s'effondreront. Et à ce moment-là, Christ entrera dans son règne, le règne de 1000 ans, le millénium. Et cela, nous pouvons en être sûrs. Le monde est incertain, mais la parole de Dieu est certaine. Et on sait qu'on peut se reposer sur Christ, qui bientôt va venir régner. J'aimerais juste conclure avec un dernier verset. C'est en fait le dernier verset du chapitre 7. Il dit « Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. » Et c'est ce qu'il faut faire. En attendant que Dieu accomplisse sa parole, il faut conserver sa parole, ses paroles dans notre cœur. Elles sont vérité et vie. Et elles nous aideront à rester fidèles jusqu'à son retour. On va s'incliner dans la prière.